Chapitre 17. À la fin du mois de juillet 2009, chacune des commissions de la Chambre des représentants concernées par la réforme du système de santé avait validé sa propre version du projet de loi. La commission sur la santé et l'éducation avait elle aussi terminé son travail. Il ne restait plus qu'à faire valider le texte par la commission financière du Sénat, présidée par Max Baucus. Ensuite, nous pourrions harmoniser toutes ces contributions pour aboutir à deux projets de loi, l'un émanant de la Chambre des représentants et l'autre du Sénat, et les faire ratifier chacun dans l'idéal avant la trêve estivale du mois d'août, l'objectif étant de parvenir avant la fin de l'année à une version unique de la législation qui n'attendrait plus que ma signature. Malgré notre insistance, toutefois, nous n'arrivions pas à accélérer les choses du côté de Baucus. Je comprenais parfaitement les raisons de ce retard. Contrairement aux autres présidents de commissions démocrates qui avaient fait voter leur projet de loi en s'appuyant uniquement sur leur soutien au sein du parti, sans se soucier de la position des républicains, Baucus gardait l'espoir d'aboutir à un projet bipartite. Mais à mesure que l'été avançait, cet optimisme commençait à paraître chimérique. McConnell et Boehner avaient déjà exprimé leur opposition farouche à notre projet législatif, qui constituait à leurs yeux une tentative de la part du gouvernement de prendre le contrôle du régime d'assurance maladie. Frank Luntz, éminent conseiller stratégique du Parti républicain, avait fait circuler un mémo expliquant que, après avoir passé au banc d'essai pas moins de 40 messages anti-réforme, il était parvenu à la conclusion que l'argument de la prise de contrôle gouvernementale était le moyen le plus efficace pour jeter le discrédit sur notre projet de loi. Depuis, suivant cette consigne à la lettre, les conservateurs psalmodiaient en boucle cette expression comme un mantra. Le sénateur Jim DeMint, trublion conservateur de la Caroline du Sud, ne prenait pas autant de pincettes pour exprimer les intentions de son parti. « Si nous arrivons à mettre Obama en échec sur ce coup-là », avait-il déclaré lors d'une téléconférence nationale avec un groupe de militants conservateurs, « ce sera son Waterloo. Il ne s'en relèvera pas. » Sans surprise, compte tenu de l'atmosphère ambiante, le groupe des trois sénateurs du GOP, qui avait été convié à participer aux négociations bipartites avec Baucus, n'en comptait désormais plus que deux. Chuck Grassley et Olympia Snow, la représentante du Maine, de tendance modérée. Mon équipe et moi avions fait tout notre possible pour aider Baucus à rallier leur soutien. J'avais invité Grassley et Snow à la Maison-Blanche à plusieurs reprises et les appelé régulièrement pour prendre la température. Nous avions consenti à une multitude d'amendements au projet de loi de Baucus pour satisfaire à leurs exigences. Nancy Ann s'était pratiquement installée à demeure dans leur bureau au Sénat et elle invitait si souvent Snow à dîner que son mari, plaisantions-nous, commençait à devenir jaloux. « Dis à Olympia qu'elle peut réécrire ce foutu projet de A à Z comme bon lui semble », ai-je fini par lancer un jour à Nancy Ann au sortir d'une de ses réunions de travail. « On l'appellera le plan Snow. Dis-lui que si elle vote pour, je lui donne les clés de la Maison Blanche. Michel et moi prendrons un appartement en ville. » Mais tous nos efforts demeuraient vains. Snow s'enorgueillissait de sa réputation de centriste et la question de l'assurance maladie lui tenait énormément à cœur. Elle était orpheline depuis l'âge de 9 ans, ses parents ayant été emportés coup sur coup, l'un par le cancer, l'autre par une maladie cardiaque. Seulement, depuis que le Parti républicain avait effectué son virage à droite toute, elle était de plus en plus isolée au sein de son propre groupe, ce qui la rendait encore plus circonspecte que d'habitude, et sa volonté affichée d'étudier chaque détail du projet avec la plus extrême minutie n'était qu'une façon de déguiser son indécision. Pour ce qui était de Grassley, c'était encore une autre histoire. Il tenait de nobles discours, clamant son désir d'aider les petits exploitants agricoles de l'Iowa qui avaient du mal à obtenir une assurance maladie fiable pour leur famille, et quand Hillary Clinton avait lancé une initiative similaire dans les années 1990, il avait soutenu un programme alternatif qui ressemblait à bien des égards à celui que nous proposions, inspiré du modèle adopté dans le Massachusetts, dans lequel figurait notamment l'obligation de souscription à titre individuel. Mais contrairement à Snow, Grassley déviait rarement de la ligne dictée par son parti sur les questions sensibles. Avec son visage allongé, son expression de chien battu et sa voix traînante aux accents gutturaux du Midwest, il se perdait en circonvolution pour nous expliquer que notre projet de loi ne lui convenait pas pour telle ou telle raison, mais sans jamais nous dire au juste ce qu'il aurait fallu faire pour emporter son adhésion. Phil était convaincu que Grassley menait Baucus par le bout du nez pour le compte de McConnell, qu'il faisait tout pour freiner le processus et nous empêcher d'avancer sur le reste de notre programme. Même moi, l'éternel optimiste de la Maison Blanche, j'ai fini par perdre patience, et j'ai demandé à Baucus de venir me voir. Fin de la partie, Max. Le temps est écoulé, lui ai-je dit lors de cette rencontre dans le bureau ovale à la fin du mois de juillet. Vous avez fait de votre mieux. Grassley nous a lâchés. Il ne vous a pas encore prévenu, c'est tout. Baucus a secoué la tête. Sauf votre respect, monsieur le président, je ne suis pas d'accord. Je connais Chuck. Je pense que nous sommes à ça de le convaincre, a-t-il dit en écartant son pouce et son index d'un demi-centimètre, affichant le sourire de quelqu'un qui vient de découvrir un remède miracle contre le cancer et doit prendre sur lui face au scepticisme des ignorants. Donnons à Chuck encore un peu de temps et attendons le retour des vacances d'été pour faire passer le projet. J'étais presque tenté de me lever d'un bond, d'attraper Baucus par les épaules et de le secouer pour lui faire entendre raison. Mais je me suis dit que ça ne servirait pas à grand-chose. Une autre solution m'a traversé l'esprit. Le menacer de ne pas lui accorder mon soutien lors des prochaines élections sénatoriales. Mais dans la mesure où sa cote de popularité était plus haute que la mienne dans son état du Montana, ça n'aurait pas marché non plus. J'ai donc continué d'argumenter et d'essayer de l'amadouer pendant une demi-heure, et j'ai fini par céder à sa proposition. Sursoir à un vote immédiat qui mettrait en opposition les deux parties, et remettre l'examen du projet de loi à la première quinzaine de septembre, quand les débats reprendraient au Congrès après la trêve estivale. Alors que les travaux législatifs avaient été interrompus pour l'été et que le vote sur le projet de loi demeurait en suspens au Sénat comme à la Chambre des représentants, nous avons décidé que je passerai les deux premières semaines du mois d'août sur la route pour une tournée de débats publics dans des États comme le Montana, le Colorado ou encore l'Arizona, partout où notre projet de réforme suscitait la plus faible adhésion. Pour édulcorer les choses, mon équipe a suggéré que Michel et les filles se joignent à moi et que nous en profitions pour visiter quelques parcs nationaux sur le trajet. Cette perspective m'enthousiasmait. Malia et Sacha n'étaient pas spécialement en manque d'attention paternelle ou d'activité pour l'été. Entre leurs amis, les sorties au ciné et les heures passées à flémarder, leur programme de vacances était déjà bien rempli. Souvent, en rentrant à la résidence après ma journée de travail, je montais au deuxième étage et découvrais le solarium envahi par une horde de gamines de 8 et 11 ans en pleine soirée pyjama, au milieu d'une pagaille de jouets, le sol jonché de miettes de pop-corn, en train de sauter à pieds joints sur des matelas gonflables ou de glousser en regardant des dessins animés sur la chaîne Nickelodeon. Toutefois, Michel et moi, ainsi que les agents du Secret Service chargés de notre protection, qui faisaient preuve d'une patience angélique, avions beau tout faire pour que nos filles aient une enfance à peu près normale, il m'était difficile, sinon impossible, de les emmener dans certains endroits comme l'aurait fait n'importe quel père ordinaire. Nous ne pouvions pas aller ensemble dans un parc d'attractions et nous arrêter en chemin pour manger un burger sur le pouce. Je ne pouvais plus, comme autrefois, faire une petite balade à vélo avec elles le dimanche après-midi. Sortir prendre une glace ou faire un tour dans une librairie était devenu une véritable odyssée. Il fallait barrer des routes, être escorté par des équipes chargées de notre sécurité et composer avec l'omniprésence des journalistes à l'affût de nos moindres déplacements. Si les filles en éprouvaient une quelconque frustration, elles n'en montraient rien. Mais pour moi, c'était un vrai crève-cœur. J'étais navré en particulier à l'idée que je ne pourrais sans doute jamais emmener Malia et Sacha faire un long road trip pendant l'été, comme celui que j'avais fait à 11 ans quand ma mère et toutes avaient décrété qu'il était temps que Maya et moi voyions un peu du pays. Nous avions passé un mois à traverser les États-Unis, et ce voyage m'avait durablement marqué. Et pas seulement parce que nous étions allés à Disneyland, même si, bien sûr, ça avait été l'un des grands moments de notre périple. Nous avions ramassé des palourdes à marée basse sur les plages de Puget Sound, dans l'état de Washington, franchi à cheval une crique au pied du canyon de Chelly, dans l'Arizona, regardé défiler la prairie infinie du Kansas derrière la vitre d'un train, aperçu un troupeau de bisons dans une plaine de Yellowstone au crépuscule, et profité des menus plaisirs que nous offrait la fin de chaque journée. Un distributeur de glaçons dans un motel, quelques plongeons dans une piscine parfois, ou tout simplement le confort d'une chambre climatisée ou la fraîcheur de draps propres. Ce voyage à lui seul m'avait fait toucher du doigt la liberté enivrante de la grande route, l'immensité de l'Amérique et l'étendue de ses merveilles. Je ne pouvais pas offrir à mes filles ce genre d'expérience. Nos voyages à nous les faisions à bord d'Air Force One ou encadrés par un cortège de voitures officielles, et nous ne finissions jamais par atterrir dans un motel au bord de l'autoroute. Aller d'un point A à un point B se faisait de manière bien trop rapide et confortable, et le programme de nos journées était bien trop rempli, prévu à l'avance et réglé comme du papier à musique, ne laissant aucune place aux imprévus, mes aventures et moments de flottement qui font le sel de ce genre de voyage, pour qu'on puisse véritablement parler de road trip. Mais pendant une semaine au mois d'août cet été-là, Michel, les filles et moi avons tout de même réussi à bien nous amuser. Nous avons vu jaillir le geyser Old Faithful dans le parc de Yellowstone et contemplé le somptueux paysage ocre du Grand Canyon. Malia et Sacha ont fait du tubing. Le soir, nous jouions à des jeux de société et essayons de repérer les constellations dans le ciel. Au moment de border les filles, j'espérais qu'en dépit de tout le cirque qui nous entourait en permanence, elles arrivaient à faire le plein de souvenirs, à s'imprégner des possibilités qu'offrait l'existence et de la beauté des paysages américains, comme j'en avais moi-même eu la chance autrefois. Et que, plus tard, lorsqu'elles repenseraient à ces voyages, elles se rappelleraient que leurs parents éprouvaient pour elles tant d'amour, tant d'émerveillement et tant de joie devant leur énergie débordante qu'il n'y avait pour eux rien de plus précieux au monde que de partager ces moments avec elles.